7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, nous sommes à Dakar pour la journée de la femme digitale, un événement français qui a choisi comme première ouverture internationale l'Afrique. Preuve qu'il souffle un vent nouveau. L'Afrique a le plus fort taux d'entrepreneuriat féminin du monde et les femmes y produisent 65% des biens. Et celles qui sont diplômées se positionnent de plus en plus sur le numérique comme un moyen d'accélérer leur réussite professionnelle. Mais en même temps, à l'échelle du continent, seulement 18% des femmes ont accès à Internet contre 25% des hommes. Et pourtant, les nouvelles technologies ne représentent que des avantages pour les femmes, y compris pour des commerçantes qui n'ont pas étudié. Alors comment réussir la transition numérique du continent avec les femmes, grâce aux femmes? On va en débattre avec celles qui créent ou qui accompagnent des startups, qui militent aussi pour une tech africaine qui ne laisse personne sur le bord du chemin. J'accueille donc 4 femmes digitales et inspirantes. L'influenceuse Edith Brou. Bonjour Edith Brou.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes blogueuse, entrepreneuse, ivoirienne, tout le monde vous connaît, plus de 10 ans de présence sur la toile. Vous avez commencé au plus fort de la crise en Côte d'Ivoire, vous avez été une des premières à démontrer la puissance de l'Internet citoyen et vous êtes devenue une tech entrepreneuse. D'ailleurs, vous êtes un peu une marque à vous toute seule, même pas la peine de citer le nom de votre entreprise.
Non, pas du tout, c'est exactement ça. Donc, 10 ans à militer pour un web... citoyens.
Et vous allez nous dire où vous en êtes, bien sûr, dans quelques instants. Également avec nous, Fatoumata Nyang-Niox, bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes directrice exécutive de Joko Labs. Joko Labs, c'est un incubateur laboratoire numérique au Sénégal, premier espace de travail collaboratif d'Afrique de l'Ouest. Est-ce que j'ai dit l'essentiel pour Joko Labs?
Tout à fait.
Il se passe beaucoup de choses, en tout cas, dans cet endroit qui est à la fois formel, informel, un endroit où on expérimente, où on invente, et vous allez nous en parler, et comment les femmes aussi peuvent trouver une place dans ces lieux d'innovation numérique. Également avec nous, Christelle Nchoassirou, bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Christelle, vous êtes présidente de Femmes Éthiques, qui forme les femmes et les jeunes filles au métier du numérique en Côte d'Ivoire. Bitilo Kondiaye, bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes présidente de l'Association sénégalaise des femmes dans les technologies de l'information et de la communication, le FESTIC, qui forme des femmes au numérique. Et vous êtes aussi coordinatrice de la cellule genre du ministère de l'économie numérique et télécommunication. Vous avez d'ailleurs une nouvelle ministre du numérique. On en parlera dans quelques instants avec vous toutes, mesdames. Alors j'aimerais que vous nous disiez toutes les quatre comment vous voyez l'évolution des femmes dans le digital à la lumière de vos propres parcours, de vos engagements respectifs. Edith Brou, vous avez un parcours 100% ivoirien. Vous n'avez pas tout à fait d'ailleurs suivi les désirs et les rêves de vos parents.
Absolument pas. C'est vrai qu'ils me voyaient professeur de mathématiques, mais moi j'avais une toute autre ambition, donc travailler dans la communication et même devenir publicitaire. Et c'est à cette période... en 97 que j'ai découvert Internet et finalement lorsque j'ai eu mon bac et je suis rentrée à l'université entre 2003 et 2006, j'ai découvert que le numérique pouvait me permettre d'allier les deux. Donc j'ai arrêté en deuxième année de sciences économiques.
L'université. Vous avez arrêté l'université.
J'ai arrêté parce que ça ne me convenait plus. C'était pas ce que je voulais faire. Ils n'étaient pas contents. Ils l'ont appris après.
Vos parents.
Mes parents. Et pendant les cours, je travaillais dans une agence, une maison de production audiovisuelle. Et j'ai travaillé comme stagiaire en production audiovisuelle. Et au fur et à mesure, je suis rentrée dans le digital progressivement grâce à mon blog que j'ai créé dans la même période, en fait. Donc ça a été une décision difficile parce que ce sont les parents qui en général considèrent le meilleur avenir pour vous. Ils ne comprenaient pas ce qu'était le digital. Pour eux, c'était un nid à problème, un nid d'insécurité, et on ne gagne pas d'argent dans le numérique. Donc, ils s'inquiétaient de mon choix.
D'autant plus, Edith Brou, que votre blog s'est très vite retrouvé dans la tourmente de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire.
Oui, mon blog et aussi moi en tant qu'activiste web avec d'autres amis qui militaient également. On a utilisé les réseaux sociaux comme Twitter et Facebook avec un hashtag qui s'appelle Dièse CIV Social et qui permettait entre 2010 et 2011 aux populations qui étaient connectées, qui avaient besoin d'aide, de pouvoir utiliser ce hashtag pour dire j'ai besoin de lait, j'ai besoin de médicaments, ou j'ai reçu une balle, j'ai besoin d'être soigné. Et nous, automatiquement, on réagissait avec tous les moyens technologiques qu'on avait à disposition à cette époque.
Ouais. Et ensuite, bah, ça a été 10 ans quand même de Edith Brou avec ses coups de gueule aussi, avec ses coups de chapeau. Vous vous souvenez des coups de gueule qui vous ont fait connaître, qui vous ont popularisé ?
Principalement la campagne Moussé contre Ebola, qui était un coup de gueule, parce que je ne voulais pas qu'à ce moment-là, au moment où la crise d'Ebola, donc on était en 2014, qu'elle puisse passer comme ça inaperçue. C'est vrai qu'il y avait des campagnes de sensibilisation, mais à ce moment donné, il y avait un challenge qui s'appelait Ice Bucket Challenge, et c'était un challenge qui venait des États-Unis, qui concernait la maladie, une maladie qui paralysait le corps, en fait, qui touchait les poumons. Et je me suis dit, les gens allaient faire la même chose en Côte d'Ivoire, en se versant de l'eau glacée sur le corps, sans savoir pourquoi, alors qu'il y avait Ebola, qui autour de la Côte d'Ivoire décimait des populations. Moi, je me suis dit, je vais grossir le message de sensibilisation qui était donné par les autorités. Lavez-vous les mains en disant, ok, au lieu de se laver uniquement les mains, puisque ça prend tout le corps, on va se verser carrément de la mousse sur tout le corps. J'ai lancé le challenge, j'ai nominé des amis, des influenceurs également.
C'est toujours le sens de l'image aussi, hein, chez vous.
Exactement.
Le message très direct. Hein.
C'est surtout pas l'image, parce qu'on peut dire beaucoup de choses avec une seule image. On peut marquer beaucoup de gens avec une seule vidéo, par exemple. Donc, pour moi, c'est important de pouvoir utiliser cette habileté que j'ai pour pouvoir faire passer des messages. J'adore l'Afrique. J'adore mon pays. Je me dis qu'on peut encore aller plus loin, encore être plus fort et plus puissant. Et ça passe par le numérique que j'utilise pour passer mes coups de gueule ou mes coups de cœur également.
C'est ça. Et pour gagner votre vie, parce qu'aujourd'hui, vous êtes une tech entrepreneuse, Edith Brou, et pas seulement une blogueuse et une influenceuse. Vous avez commencé à intéresser des marques et à vous dire aussi qu'il fallait vivre de l'Internet. Certains vous ont reproché de perdre votre âme.
Bien sûr, il y a eu beaucoup de discussions là-dessus, sur les réseaux sociaux. Il y a eu des bruits de couloir également.
Edith Brou, elle vend des marques de baskets.
C'est ça, elle vend son âme. À un moment donné, il fallait aussi réfléchir. Est-ce que je continue à faire quelque chose et à ne pas me rendre compte de l'opportunité que cela me procure, mais tout en étant en lien avec mes valeurs également. Donc forcément, on prend le cas de Serena Williams, qui a des collaborations avec des marques qui ont des valeurs qu'elle partage forcément. Et sur le digital, je suis contactée par des marques, mais en général, j'étudie, je vois si elles sont en lien avec les valeurs que je partage, s'il y a des collaborations qu'on peut pousser un peu plus avec elles. Donc, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de discussions là-dessus, les gens n'ont pas compris à l'époque, mais aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup d'autres qui ont suivi le même parcours que moi.
Fatoumata Nyang Niox, le parcours d'Edith Brou aujourd'hui, c'est la femme digitale multivisage. Est-ce que c'est comme ça qu'on pourrait résumer aussi où en sont les femmes aujourd'hui dans le digital, celles qui ont réussi à percer ?
Je dirais pas vraiment que c'est cette image que ça pourrait renvoyer, parce que nous n'avons pas encore atteint, en tout cas, le nombre fou, je pense, qui nous attend dans quelques années, de femmes dans le digital totalement scotchées entre Twitter, Instagram, Snapchat. Ça arrive parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai découvert Snapchat grâce à ma petite nièce de 11 ans. J'ai eu un peu honte parce que travaillant dans le digital, faisant beaucoup de choses, accompagnant des femmes dans le digital, il était, on va dire, marrant tout simplement de voir que c'était une petite fille de 11 ans qui me disait « Écoute tata, tu ne connais pas Snapchat, quelle honte alors !» Quelques années auparavant, une autre nièce me disait à ma sœur et à moi « Eh bien dis donc, vous n'êtes pas du tout digitale. » Donc je pense qu'on est dans cette lancée, et que cette lancée, elle se matérialise par de plus en plus de création de blogs, de plus en plus de femmes qui se lancent dans l'entrepreneuriat à travers le net. On voit de plus en plus les blogueuses, comme si je prends le cas du Sénégal, nous avons les ateliers de Corinne, nous avons entendu parler de Karel Gourmandise. Et en fait, aujourd'hui, c'est un outil indispensable pour d'ailleurs l'autonomisation des femmes, mais aussi dans la marque et dans la création de business.
Et comment justement à Jocolabs vous les voyez arriver, ces femmes ? Dans quel état d'esprit ?
Elles arrivent, ces femmes curieuses, déjà très curieuse et avec l'envie d'apprendre. Avec l'envie d'apprendre dans la mesure où ce sont des outils nouveaux, ce sont des outils qu'elle découvre en même temps que toute une masse, donc vraiment très très compliqué à s'adapter pour certaines d'entre elles. Je pense qu'elles ont besoin d'être accompagnées parce qu'elles arrivent curieuses, ne connaissent pas, mais ont besoin d'être accompagnées à s'adapter à ces outils, mais aussi à les utiliser de manière positive.
Alors, on est dans une conférence, la journée de la femme digitale, qui se déroule à l'hôtel Pullman à Dakar. C'est un défilé d'élégance de dames qui sont dans le business, dans le digital. Est-ce qu'en même temps, je vous pose la question, Christelle Nchoa-Sirou et puis Bitilo Kondiaï, qu'est-ce que ça reflète des réalités des femmes africaines aujourd'hui, finalement, Bitilo Kondiaï ? Est-ce que vous n'êtes pas complètement déconnectée ?
Pas du tout. Parce qu'en fait, le digital s'est imposé aux femmes africaines. Aujourd'hui, vous allez voir une femme tout à fait analphabète qui va utiliser WhatsApp. Donc, on a vu comment la technologie a permis, en tout cas, à des femmes de se connecter à d'autres milliards de femmes. Donc, c'est devenu un outil indispensable dans la vie de tous les jours. Et tout le monde, en tout cas, s'y met. Parce que si vous n'êtes pas connecté sur WhatsApp, vous ratez des informations. Nous pouvons dire que nous sommes un continent connectés, bien entendu. Il y a une partie des femmes qui sont connectées. Il y en a d'autres qui sont hors ligne. Mais nous espérons qu'aujourd'hui, avec l'imagination et la créativité des différents développeurs et développeuses, nous pouvons permettre, grâce à la technologie, à toutes ces femmes-là de pouvoir être connectées.
Alors justement, vous êtes présidente d'une association sénégalaise qui forme les femmes au numérique. Comment vous touchez ces femmes qui ont à peine accès à Internet, qui sont connectées à WhatsApp, mais guère plus, et surtout qui, dans leur vie de tous les jours, dans leur business de tous les jours, dans leur désir d'autonomisation, ne font pas le lien entre ce qu'Internet peut leur apporter et puis leur travail de tous les jours?
C'est vrai qu'elles n'ont pas peut-être toute la teneur, en tout cas, de l'enjeu d'Internet. Nous, ce qu'on fait d'abord, c'est une sensibilisation. On les amène sur des petits ateliers pour les sensibiliser, pour leur dire, par exemple, à travers l'e-commerce, hein, vous pouvez avoir accès à un marché important.
Le commerce en ligne.
Le commerce en ligne.
Pour des femmes qui font quoi dans la vie ?
Qui transforment des produits locaux. Donc l'idée, c'est de leur dire, bon, c'est vrai que vous n'avez pas déjà les compétences pour vraiment faire réellement du commerce en ligne, mais on vous donne l'envie. Et cette envie-là, on essaie de la susciter et petit à petit, aller vers une appropriation de l'outil Internet.
Et de leur dire, vous avez un marché qui est beaucoup plus grand que l'étalage sur le bord de la route ou le marché du quartier ou de la petite ville.
Tout à fait. C'est ça qu'on leur fait savoir, qu'ils comprennent cet enjeu-là et les amener, en tout cas, même s'ils veulent, à financer des plateformes de commerce en ligne. Donc, nous avons pu, lors de ces entretiens-là, de ces ateliers, susciter l'intérêt de ces femmes qui aujourd'hui veulent être accompagnées pour qu'on puisse mettre en place des plateformes de vente en ligne.
Comment vous parlez à ces femmes qui n'ont pas étudié ? Dans quels termes ? Qu'est-ce que vous leur donnez comme exemple pour que tout de suite ça fasse tilt ?
On leur parle en Wolof et on leur donne des exemples concrets dans leur langue maternelle.
Oui, mais par exemple, dites-nous à quoi ça ressemble le dialogue ?
Le dialogue, il y a d'abord un expert qui est là, qui vient, qui fait des présentations en PowerPoint et qui leur explique comment se passe le commerce en ligne, les différentes étapes, voilà. Et après, on voit l'intérêt et commence à dire, mais ça, c'est intéressant, vraiment, on aimerait vraiment pouvoir avoir cette plateforme. Et le seul problème qu'elles ont, c'est le problème de financement. Elles vont dire, nous n'avons pas de financement pour créer ces plateformes.
Ouais. Voilà. C'est-à-dire pour payer un développeur, par exemple, hein, qui créerait la plateforme pour elles.
C'est ça. Et nous, on s'était engagés, en tout cas, à mettre en place ces plateformes-là. Et on est en train de discuter avec un partenaire pour pouvoir mettre en place des plateformes de commerce en ligne pour les femmes productrices.
Donc des femmes qui se mettraient en réseau dans ces cas-là pour partager une plateforme ?
Bien sûr. Bien sûr, parce que nous, on forme de grandes associations qui sont fêtières, représentatives au niveau national. Et voilà, on a ce projet-là de mettre en place la plateforme de commerce en ligne. Bien entendu, il y a d'autres projets avec ONU Femmes, qui est Buy from Women. Mm-hmm. On a une plateforme comme Soretool. Lorsqu'ils ont entendu notre désir, il y a cette ambition de pouvoir développer des synergies plutôt que de créer de nouvelles plateformes. Mm-hmm. Donc on est en train de réfléchir sur là-dessus.
Christelle Assirou, vous êtes présidente de Femmes et Éthique, donc qui forme aux nouvelles technologies des femmes, des jeunes filles au métier du numérique, là cette fois-ci en Côte d'Ivoire. Comment a évolué la place des femmes dans le digital à la lumière de ce que vous faites et de vos engagements?
Alors, moi, je pourrais dire que la place des femmes dans le digital évolue très vite. De mon analyse, l'appât, principalement, a été les réseaux sociaux, au-delà d'Internet. Pourquoi ? Je pense que par nature, les femmes aiment bien être ensemble, aiment bien raconter ce qu'elles font, présenter ce qu'elles font, les sorties entre amis, et ça a été l'appât. Donc, du coup, vous avez un nombre important de femmes qui utilisent les réseaux sociaux. Mais maintenant, est-ce qu'elle capitalise sur cette utilisation? Est-ce que cette utilisation est à bon escient?
Donc, au-delà du loisir, en fait.
Au-delà du loisir,
et de l'utilisation familiale et sociale.
Etc. Au-delà de l'utilisation sociale, est-ce qu'on capitalise pour la partie business? Est-ce que ça nous rapporte quelque chose? Et je pense que ce turnover est en train de se mettre en place actuellement. Aujourd'hui, énormément de femmes, de plateformes, des groupes sur Facebook par exemple, des groupes sur WhatsApp qui se mettent en place et au sein desquels les femmes commencent à distiller leurs solutions, ce qu'elles ont comme service, comme produit et tout ça. Alors nous, notre regard par rapport à notre organisation, ce qu'on fait à l'image de ce que Betty fait au Sénégal, alors nous agissons sur la sensibilisation parce qu'il faut d'abord une prise de conscience. Tout à l'heure avec la directrice de Je Collabs, elle a dit qu'il faut un usage responsable. Donc, il faut sensibiliser justement pour leur montrer les avantages, les bons côtés, les gains qu'elles peuvent avoir sur ces différents canaux-là. Et puis ensuite, maintenant, concrètement. Donc, quand on devient concret, là, on passe maintenant sur le renforcement des capacités, sur le développement des compétences. Et donc là, on rentre dans la formation. Alors, on forme aux usages pour les femmes de tout niveau. Donc, les femmes... du marché, les femmes commerçantes, alphabétisées ou non, et tout ça. Et puis, donc, elles, on forme sur les usages. Parce que vous vous rendez compte qu'il y en a qui, bien qu'elles soient alphabétisées ou pas, mais elles n'arrivent même pas à utiliser les outils, les applications et tout ça. Donc, il faut juste leur montrer ça. Et puis ensuite, on a les formations maintenant pour les métiers du numérique. Donc, pour que les femmes ne soient pas que des consommatrices, mais qu'elles deviennent des actrices. Donc, pour les besoins d'une plateforme de e-commerce, par exemple, qu'elles soient, que des femmes puissent être capables de le réaliser. Que des entreprises de femmes, dirigées par des femmes, puissent être capables de le réaliser. Aujourd'hui, on dit, par exemple, et ça, c'est dans tous les continents, vous avez 10% de femmes, en moyenne, qui embrassent des carrières et des études académique dans ce secteur. Et donc là, il faut pousser justement un peu plus de femmes. Et on a vraiment énormément de programmes ou d'actions qu'on mène qui permettent justement de relever tout ça.
Et bien justement, c'est ce qu'on va voir avec vous toutes les quatre. Hein. Comment faire en sorte que les femmes ne soient pas seulement des consommatrices de technologies inventées encore par les hommes? Et puis qu'est-ce qu'elles peuvent apporter aussi au business digital? Comment elles peuvent transformer ce business, apporter de la valeur ajoutée qui va retomber aussi en bénéfice pour les hommes? On va en discuter, vous restez avec nous, ça sera juste après Walisek Yobante.
Allez, tu m'as dit.
Walisek Yobante chez 7 milliards de voisins. Vous écoutez RFI, nous sommes à Dakar pour la journée de la femme digitale qui réunit vraiment l'élite des filles qui sont dans le numérique. Alors c'est l'élite, effectivement, beaucoup de femmes très, très éduquées mais qui ont à cœur un investissement, un engagement aussi de faire en sorte, par la formation, par la sensibilisation, d'emporter dans leur sillage aussi toute une génération de femmes qui, simplement avec un téléphone mobile, avec une application WhatsApp, découvrent là au fil des mois, au fil des années, comment finalement améliorer leur business, améliorer leur petit commerce. On le voit bien, il y a toute une pédagogie maintenant hein, pour parler du numérique, c'est ce que vous m'expliquiez toutes les quatre, pour former plus vite, plus de femmes. On n'a que 18% de femmes qui ont accès à Internet contre 25% d'hommes. On est, c'est vrai aussi, sur un continent où le taux de pénétration d'Internet, je parle sous votre contrôle Edith Brou et Fatoumata Nyangniox de Joko Labs, mais le taux de pénétration, il est encore de, on est à moins de 40% de taux de pénétration d'Internet sur le continent africain, 80% en Europe, hein, même si ça va très vite, il y a encore du chemin à parcourir. Christelle Assirou, vous nous disiez, vous occupez d'une association qui forme les jeunes filles au métier du numérique en Côte d'Ivoire, que maintenant il faut passer à la vitesse supérieure et qu'il faut donner l'envie aux filles d'embrasser des carrières d'informaticienne. Bitilo Kondia, et vous faites la même chose aussi pour l'association sénégalaise. Ce qui est intéressant, c'est que vous, toutes les quatre, Edith Brou, la blogueuse, Fatoumata Nyangniox, Joko Labs, donc le hub de l'incubation, etc., toutes les quatre, en fait, aucune n'est informaticienne réellement de formation. Je me trompe ?
Absolument pas. Edith Brou, non, je ne suis pas informaticienne. C'est vrai que j'ai essayé d'apprendre un peu de code HTML il y a 9 ans, 8 ans, mais bon, je manquais de temps. Mais je suis du côté business et du côté, je dis souvent bling bling, du numérique et du digital.
Ouais, vous l'assumez complètement.
Non, je l'assume complètement. C'est que c'est sans le digital et sans les usages numériques, je ne serais pas ici en train de parler dans l'émission d'Emmanuel Bastide. Ouais.
Mais donc toutes les trois, là, vous n'avez pas été formée en tant qu'ingénieur informatique, hein, on est d'accord.
Mais non, Christelle. Mais moi, je suis gestionnaire de formation, marketeur de formation en Bac plus 5. mais je suis déformée. Mais complètement déformée informaticienne. Je sais le vendre, je sais le marketer. Voilà. Dans les services numériques, dans l'informatique, dans l'IT pur, je sais le vendre, je comprends les technologies, j'y vais à fond dans la compréhension. Voilà.
Vous parlez mieux qu'un développeur, Bitilo Kondia.
Moi, je suis sociologue de formation.
Voilà.
Et je suis une militante des droits des femmes. C'est pourquoi j'ai ma place dans le domaine du digital. Et pour m'accorder une certaine crédibilité, je suis en train de suivre un master en politique et régulation des TIC. Vous comprenez que ce n'est pas toujours facile d'être sociologue et d'être dans le milieu technique.
Pas tout mettre à Nyangniox.
Alors moi, je suis tombée dans le digital parce qu'il le fallait. C'était pour accompagner les enfants et je devais avoir cette crédibilité face à mes enfants pour leur dire, c'est très bien le smartphone, mais comment est-ce qu'il a été créé? Comment est-ce qu'on peut l'utiliser et comment est-ce qu'on crée une application? Parce que mon fils voulait que je lui crée une application, j'en ai pas été capable. Donc, je suis tombée dedans et je n'ai pas eu le choix.
Et vous avez lancé Joko Kids. Hein.
Et voilà, le projet Joko Kids a été initié. Donc, c'est ce projet qui m'a attirée. En fait, c'était l'aimant de Karim Si, le fondateur, pour me faire intégrer Joko Labs. Il a su m'appâter par Joko Kids, qui est un projet en fait qui milite pour la transversalité des matières pour les enfants. C'est-à-dire que le numérique n'est pas une fin en soi. Il faut pouvoir développer l'expression de soi de chaque être humain. Donc les enfants, l'associer un peu à de la fabrication, parce que nous sommes en Afrique, la résilience est là. Avant, on jouait avec des objets récupérés, on jouait dans la rue. Aujourd'hui, nos enfants sont tout le temps sur des smartphones, donc on a eu envie de se dire comment est-ce qu'on va accompagner ces enfants à créer, à stimuler leur créativité, développer leur expression de soi pour aller sur des comportements responsables pour éviter le gaspillage, faire des lampes de chevet pour dormir le soir avec une bouteille d'eau minérale par exemple, et comment à travers un compte créé totalement par les enfants, je pouvais non seulement créer une vidéo, mais je pouvais également le coder et en faire une animation vidéo.
Ouais, c'est ça, vous avez bien résumé finalement ces 10 dernières années pour les enfants, c'est qu'ils sont passés de la voiture boîte de conserve à l'écran.
Totalement.
Beaucoup plus vite que l'Europe, évidemment, ou que l'Amérique du Nord.
Mais
rien à voir.
C'est pour ça qu'ils n'aiment plus les activités manuelles. Il faut, pour les appâter, avoir un outil informatique, une tablette, un téléphone pour les intéresser à une activité.
Ouais, mais du coup, vous, les femmes, vous êtes arrivées, non pas dans le digital parce que vous étiez ingénieure informaticienne, mais vous êtes arrivées, pas par la technique, mais par une vision de réseau, de transmission. Et aujourd'hui, il faut passer à la vitesse supérieure. C'est comme ça que vous voyez les choses, Christelle ?
Alors, effectivement, on a fait avec nos moyens, en tant qu'association, avec ce qu'on pouvait, les soutiens qu'on a pu avoir, notamment depuis plusieurs années quand même, avec l'Organisation internationale de la francophonie, qui a beaucoup soutenu nos actions. Mais aujourd'hui, pour nos États, au-delà de tout ce qui a été fait de façon sporadique par des associations que nous représentons, il faut vraiment que l'État s'en saisisse de cela pour qu'on puisse passer à l'échelle. Et donc, aujourd'hui, nous, en Côte d'Ivoire, on a été intégrés à certains projets qui sont beaucoup plus grands d'envergure. Et on espère que s'ils aboutissent, en tout cas, on pourra former à l'échelle beaucoup plus importante des femmes sur l'ensemble du territoire, avec le soutien de l'État, par le ministère de l'économie numérique, avec certaines organisations comme l'ONU Femmes, comme le PNUD, etc. Donc c'est ce genre de choses actuellement qui sont en cours.
Alors j'en arrive à poser la question cruciale, puisque c'est vous qui avez les premières mis le mot « les États » sur la table de la discussion. Est-ce que vos décideurs politiques dans vos pays respectifs comprennent vraiment les enjeux du digital ?
Je pense que nos États et nos gouvernants n'ont plus le choix de toute façon. Ils ne peuvent plus passer à côté de cette révolution qui est comme un rouleau compresseur et qui met en compétition tous les pays du monde. On parle maintenant de la 4e révolution industrielle. Donc c'est la révolution qui concerne la communication, l'information. On est des économies extractives. En tout cas, pour la plupart des États africains, on est des économies extractives. Et c'est peut-être pour ça qu'on souffre de certains conflits. Mais avec l'information, avec la technologie qui vient du cerveau, donc de notre intelligence, on est peut-être plus soumis à ces petits conflits. Donc ils ont compris. Ceux-là, ils ont compris les enjeux. C'est pour ça qu'on a, par exemple, Smart Africa. On a différents projets qui existent, que ce soit en Côte d'Ivoire, avec l'ONG Femmes Éthiques, la Fondation Jeunesse Numérique, et avec le soutien de l'Union Internationale des Télécoms. Mais il y a encore énormément d'efforts à faire, surtout l'éducation et le numérique. Je considère que...
Vous êtes écouté sur ce sujet-là, parce que je sais que maintenant, pour vous, c'est un challenge important aussi d'arriver à transmettre à des jeunes filles le goût d'aller plus loin que ce que vous avez fait vous-même, en fait. C'est de s'engager directement dans des formations informatiques, dans des filières scientifiques, dès le lycée. Finalement, est-ce qu'aujourd'hui, vous... Alors, vous êtes un nom en Côte d'Ivoire, Edith Brou. Est-ce que vous êtes réellement écouté ? Est-ce que derrière, il y a une vraie politique pour ça ?
Je pense qu'on est encore peut-être, à mon avis, dans beaucoup de discours. Par exemple, je pense que je parle aussi sous le couvert de Christelle. C'est vrai qu'on mène des actions. À l'époque, en 2009, nous, qu'est-ce qu'on s'était dit avec l'ONG Akendewa ? Qu'on n'allait pas attendre l'État, que l'État vienne nous soutenir financièrement ou même institutionnellement pour nos activités. On a organisé 2 barcamps en 2009 et 2010. Le 2e barcamp a été financé par Google Afrique à l'époque. On n'a pas attendu l'État. L'État est venu après, quelques années plus tard, 5 ans ou 6 ans plus tard, de façon progressive. Mais je me dis que pour une question de survie, parce que là maintenant on parle d'employabilité des jeunes, on parle de chômage, on parle de l'informel qui est développé, on parle de débouchés, il y a des métiers qui vont disparaître. Et je considère qu'il y a encore des efforts à faire au niveau de nos États, surtout au niveau de nos différents ministères, pour pouvoir aller sur des décisions disruptives, surtout en matière d'éducation et de numérique.
C'est quoi
une
décision disruptive ?
Une décision disruptive, c'est vraiment une décision qui brise les codes, qui va à l'encontre des choix traditionnels qu'on a eu l'habitude de faire.
Qu'est-ce que vous attendriez comme décision disruptive chez vous en Côte d'Ivoire, par exemple, Edith Brou ?
Par exemple, quand je parle de numérique, pouvoir intégrer des modules de formation dans le système éducatif, dès la base, dès la maternelle ou dès le primaire.
Ça veut dire apprendre le code informatique dès l'école primaire, par exemple ?
L'objectif, ce n'est pas de transformer...
Comme c'est le cas
aux États-Unis ? Oui, par exemple. Mais l'objectif, ce n'est pas de transformer tous les enfants de Côte d'Ivoire en codeurs ou en développeurs. Mm-hmm. C'est vrai que moi, en tant que geek, ça serait mon idéal. Mais l'objectif, c'est de donner une habilité à ces enfants qui vont grandir, qui vont aller à l'université et qui pourront être aussi compétitifs que des jeunes de Singapour ou des jeunes d'Australie, par exemple. Que ce soit intégré de façon parallèle au système éducatif actuel, qui pour moi aussi est un peu vétuste, parce que je pense qu'on forme au métier du passé. Donc il est important de pouvoir intégrer, comme au Canada, l'éducation numérique, avec des tableaux blancs numériques, par exemple, qui éviteraient aux professeurs d'utiliser encore la craie. On est encore à la craie. Il y a énormément de choses à faire entre le numérique intégré dans le système éducatif. Et moi, c'est ma motivation.
Et quelle place pour les filles dans ces dessins, dans ces objectifs-là? On le voit bien, même dans un pays comme la France, il y a beaucoup, beaucoup moins de filles dans les écoles de codage informatique, dans les écoles du numérique.
J'ai envie de rebondir sur les propos d'Edith parce que c'est très marquant. Il y a quelques années, l'État ne faisait rien pour le numérique. Je pense que depuis peu, en tout cas pour ce qui concerne le Sénégal, il y a une, je dirais, qui commence à comprendre et à prendre des mesures qui sont importantes, en tout cas, ou impactantes. Au Sénégal, on a créé l'année dernière ce qu'ils ont appelé la délégation à l'entrepreneuriat rapide suite au premier forum du numérique qui a été présidé par son Excellence Macky Sall. Et derrière cela...
Pour les femmes et les jeunes.
Pour les femmes et les jeunes, justement, la volonté du président, c'était de dire le digital pour l'autonomisation des femmes et des jeunes. Et c'est pourquoi cette délégation a été créée. Par contre, il est temps qu'on arrête de devoir faire apprendre notre jeunesse, nos enfants, par les initiatives des autres. Je donne l'exemple de... Je suis coordinatrice pour l'Africa Code Week, pour tout l'espace francophone en Afrique. C'est 36 pays, plus de 200, plus d'un million 500 d'enfants accompagnés pour l'apprentissage du code, avec une forte appétence et surtout une forte orientation pour les femmes, les filles. Donc on stimule la mise en place de la création de réseaux de femmes dans le digital pour qu'elles puissent s'inspirer entre elles, pour qu'elles puissent créer de la valeur, pour que ces femmes puissent, parce qu'elles sont à la base des institutrices, des éducatrices, elles être le véhicule et le moteur un peu de cette démarche d'enseignement du code à l'école. Aujourd'hui, c'est l'État. C'est de la responsabilité de l'État d'initier parce que c'est le seul qui a la capacité et en fait la possibilité et de légiférer dessus et de mettre un curriculum. Le code est un langage. SAP accompagne l'Africa Code Week depuis plusieurs années avec d'autres partenaires. Il est temps que nos États africains prennent pleine possession et ensuite s'approprient en tout cas ces démarches et qu'elles soient de manière naturelle et inscrites dans tous les curriculums.
Alors c'était une promesse de campagne de Macky Sall, hein, l'apprentissage de l'anglais et de l'informatique dès le primaire pour justement pour promouvoir l'inclusion numérique. Il a annoncé aussi lors de sa réélection des engagements financiers importants pour les start-up du digital. En même temps, la nouvelle ministre du numérique au Sénégal n'est pas du tout une connaisseuse de ce secteur. Est-ce que c'est crédible du coup ?
Je dirais non au départ, parce que quand on a eu l'annonce du nouveau ministre, on s'est dit, on nous amène quelqu'un qui vient de la pêche. Bon, qu'est-ce qu'elle connaît au numérique ? Par contre, j'ai beaucoup d'espoir parce que c'est une femme et que je sais que les femmes sont des battantes. Je sais qu'elles ne s'engageraient pas dans un combat. Je ne sais pas si elle est politique ou pas, mais en tout cas, elles ne s'engageraient pas pour échouer. Donc j'ai totalement confiance en elle et je pense qu'elle saura surtout bien s'entourer pour pouvoir accomplir les missions qui lui ont été confiées.
7 milliards de voisins.
On est en forme.
C'est l'attitude qui gagne.
7 milliards de voisins, vous écoutez RFI. Nous avons installé notre studio à l'hôtel Pullman à Dakar parce que c'est la journée de la femme digitale. C'est la première édition sur le continent africain d'ailleurs, organisée par The Bureau qui a souhaité promouvoir la place des femmes dans le digital et faire en sorte qu'on en parle plus, qu'on parle plus aussi des inégalités à l'heure actuelle. Sur le continent africain, on a 18% des femmes qui sont connectées contre 25% pour les hommes, enfin qui ont accès à Internet. Et en même temps, depuis le début de l'émission, nos invités Edith Brou, Fatoumata Nyang-Nyox, Christelle Nchoa-Sirou, Biti Lokondiaye, vous nous expliquez que les femmes, d'abord, apportent beaucoup de sens à la digitalisation, beaucoup de sens collectif, de sens politique aussi, dans la nécessité d'apporter de l'éducation dès le plus jeune âge, de l'éducation numérique. Mais finalement, les auditeurs, les hommes, les voisins qui nous écoutent se disent « Ouais, d'accord, mais en termes business, ça donne quoi ? Ça apporte quoi, les femmes, dans le digital ?» Edith Brou, vous qui avez fondé votre agence de communication digitale et qui êtes aussi bien une figure de l'Internet citoyen, mais aussi qui rapporte de l'argent.
Mais en fait, sans le digital, je connais beaucoup de femmes qui n'auraient pas pu vivre en fait, de leurs activités, par exemple. Je vais prendre un cas concret d'une jeune dame qui aujourd'hui vit aux États-Unis et qui travaillait pour une agence, pour un opérateur de téléphonie et qui a commencé à faire son business sur Facebook. Qu'est-ce qu'elle faisait ? Elle n'avait aucun stock de marchandises sur Abidjan. Elle prenait les photos des produits, c'était des produits de luxe qui étaient en démarque. Et comme son mari habitait aux États-Unis en face des grandes enseignes, et donc elle postait des photos dans un groupe qu'elle avait créé, un groupe privé, un groupe fermé, Facebook. Et lorsque la personne commande, elle fait la précommande, la personne donne une avance, en général 30% du montant. Et ensuite, au bout de 3 semaines, la personne se fait livrer et il solde. Au bout de 2 ans, ce qu'elle faisait entre ses heures de boulot et à la descente est devenu son activité principale. Elle a fait un choix. Elle a rejoint son mari aux États-Unis. Elle a stoppé son travail. Elle a démissionné complètement. Et elle en a fait une activité business à part entière. Et aujourd'hui, elle vit que de ça aux États-Unis avec son mari et son enfant. Et elle fait la navette entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis tranquillement grâce à Internet. Et en fait, les femmes, c'est ça. On a la possibilité de pouvoir libroguer d'une certaine manière nos activités lorsqu'on utilise le digital. Et un deuxième exemple dernier, je prends mon associé de l'époque avec qui j'ai cofondé un magazine féminin en ligne, Ayana, elle s'appelle Ami Kwame, qui à l'époque travaillait et elle faisait les deux. Et à un moment, il a fallu faire un choix. Je lui ai donné complètement la gestion du site en ligne parce qu'il fallait quelqu'un qui soit présent à fond pour que ça puisse générer un chiffre d'affaires beaucoup plus intéressant. Aujourd'hui, depuis 1 an, elle est complètement à fond sur ce magazine. Elle organise la soirée Superwoman et elle gagne son argent tranquillement avec ce business, en fait, sur le digital. Donc, c'est des exemples concrets qui montrent en fait, qu'on peut même gagner de l'argent.
Pour celles qui arrivent à jongler avec plusieurs vies. Mais en même temps, est-ce que ce n'est pas un plafond de verre pour les femmes, Fatoumata Nyang Niox ? À un moment donné, il faut pouvoir s'investir, même si on ne gagne pas d'argent. La prise de risque, c'est possible aussi pour les femmes ?
Et il faut qu'elles osent, parce qu'aujourd'hui, on pense attendre d'être sécurisées financièrement avant de se lancer. C'est la problématique de la plupart des femmes que nous accompagnons qui ont peur d'arrêter, parce qu'elles ont peur
de quitter leur travail,
laisser tomber leur travail.
Donc elles viennent vous consulter à Jocolabs, mais elles disent « Ah ouais, mais je sais pas », c'est ça.
Voilà, on en a beaucoup, nous sommes dans une société, on a un bon salaire, mais on a un super projet qu'on voudrait vraiment développer, mais on a peur de ne pas s'y retrouver, de faire banqueroute, et nous n'avons pas vraiment d'économie. Donc ces femmes, on leur dit « Il faut croire en vous ». Si vous ne prenez pas de risques, vous n'y arriverez pas. Donc, on est obligé de les stimuler, mais on les stimule en leur donnant des exemples concrets de femmes qui ont tout lâché pour s'investir. Elles ont trimé pendant les débuts, mais aujourd'hui, elles se retrouvent à la tête d'un empire, par exemple.
Ouais. Alors, ceci dit, c'est vrai aussi que, question sécurité numérique, les femmes sont de plus en plus la cible d'attaques sur les réseaux sociaux parce qu'elles sont des femmes aussi. Comment on peut les aider à protéger leur vie privée tout en se mettant en première ligne sur le business du digital, Christelle Assirou ?
Protéger leur identité, ça dépend. C'est chacun qui gère son image. À mon avis, gérer son image sur Internet, ça dépend de ce que vous voulez lâcher comme information. Donc, si vous avez choisi d'être... de vous présenter en professionnel, ça veut dire que vous orientez votre communication comme étant une professionnelle. Donc à ce niveau-là, que ce soit pour vos profils de réseaux sociaux, que ce soit pour votre blog, que ce soit pour votre site internet, alors ça dépend, votre communication personnelle, votre personal branding, pour emprunter le mot à Edith, justement, vous l'orientez de cette façon. Voilà. Et en dehors de ça aussi, il faut faire de la sensibilisation sur la protection, parce que on a tendance justement, à cause de la partie socialisation, à exposer beaucoup de choses de notre vie privée. Et donc après, chacun doit être informé des risques, et puis peser plus ou moins comment est-ce qu'il choisit sa communication sur Internet. C'est pour cela qu'à côté de ça, il faut beaucoup de sensibilisation, je pense.
Vous êtes d'accord avec ça là-dessus? C'est un vrai problème qui touche peut-être davantage les femmes.
Voilà, oui. La cyber-intimidation est devenue... En fait, les femmes en griffe, les hommes les considèrent comme vulnérables déjà. Et les femmes aussi ont manque de confiance en nous. Donc, on est facilement aussi, comment je peux dire, atteignable par des attaques, qu'elles soient verbales, qu'elles soient également griffes physiques et tout. Mais la cyber-intimidation est l'une des plaies, en fait, que le digital aussi nous a amené, ouais. Malheureusement.
D'autant plus quand il y a des enjeux business, d'autant plus quand vous réussissez pas si mal, non ?
Vous êtes attaqué forcément. Mm-hmm. On s'attend à ce qu'à un moment donné, vous ayez une faille qui soit visible, que ce soit peut-être quelqu'un qui a quelque chose de compromettant avec vous et qui puisse le diffuser et à un média ou le diffuser directement sur les réseaux sociaux.
Ouais, c'est du vécu, crédibilité.
Je sais que ça concernait plutôt ma famille. Et j'avais vu une publication...
Parce que vous avez mis en scène votre famille, vos enfants et tout aussi. Hein.
Comme on disait Christelle, c'est ce personal branding que j'ai choisi. C'est vrai que je l'assume.
Vous êtes votre propre marque, Edith Brou.
Ma propre marque. Et en tant que citoyen numérique, on est tous des citoyens numériques, on choisit ce qu'on veut exposer comme information. Et j'ai choisi de me mettre en scène. Les enfants, beaucoup moins. C'est vrai qu'au début, je le faisais un peu, mais maintenant, j'ai mis un petit stop à ça. Mais à un moment donné, j'ai été attaquée sur le fait que j'étais maman célibataire avec deux enfants de pères différents. Ça, tout de suite, ça vous touche. Parce que vous pensez même que cette information, vous ne l'avez pas donnée. Et vous vous rendez compte qu'on en discute. Or, votre profil de réseau social, on en discute sur une page. Et là, vous prenez un coup dur. Mais après, vous assumez le fait que c'est ça le business aussi. On va vous attaquer, il faut avoir le dos dur. Et que Internet donne la liberté à n'importe qui de s'exprimer sur n'importe quel sujet.
Moi, je me reviens au-delà de tout ce qui est inclusion numérique des femmes qui est vraiment recherchée. Il faut garder en vue l'autonomisation des femmes, la capacité des femmes à se prendre en charge. Il faut qu'on aboutisse vraiment vers de vraies businesswomen, vers des femmes qui agissent véritablement et qui profitent de tout le potentiel qu'offre le numérique justement pour développer leurs activités.
C'est-à-dire prendre la part qui vous est réservée, le droit d'avoir cette part du gâteau malgré le prix à payer parfois en tant que femme.
Moi je le fais, je fais beaucoup de choses pour les autres, mais en même temps il y a moi je dois vivre. Voilà, et moi aussi j'ai mon business dans le digital. Je suis aussi cofondatrice et chef d'entreprise. Qui fait du service numérique, qui fait de l'hébergement, qui fait de la formation et tout ça. Et donc, il faut vraiment profiter chacune autant que possible. Le problème aussi ne concerne pas que le digital, mais les femmes ont besoin de certains accompagnements parce qu'elles sont beaucoup plus nombreuses dans l'informel. Donc, beaucoup d'activités, mais qui ne sont pas structurées, qui ne sont pas organisées. Ce n'est pas de vraies entreprises. Une femme qui ouvre sa page en ligne, qui a ses habits, sa boutique à la maison,
oui.
Elle n'est pas vraiment enregistrée dans
au registre du commerce.
Au registre du commerce et tout
donc,
ça.
Donc, je vois où vous voulez en venir. Donc, voilà. Question impôts.
Impôts et tout ça.
Donc, quand on apparaît comme business public sur les réseaux, sur le digital, ça veut dire aussi qu'on est forcément... on peut être taxé.
On peut être taxé. Apparemment, l'administration chez nous n'est pas. Ils se préparent à ça. Pour le moment, ils n'y sont pas encore. Et donc, on continue de papillonner, mais ça va arriver. Donc, il faut vraiment accompagner, justement, à travers le hub ou autre. Chez nous, on a la Fondation Jeunesse Numérique et tout ça. Il faut accompagner les femmes, qu'elles soient d'ici, en tout cas sur l'ensemble du continent. Je pense qu'on a les mêmes réalités. Et ces réalités-là, nous, on les voit très bien au sein de notre réseau. Femmes éthiques a propulsé un réseau dans l'espace francophone qui s'appelle Femmes Numériques et Développement. Aujourd'hui, qui a 12 pays. Et donc, quand on a regardé, que ce soit au Tchad, au Niger, en Mauritanie, en Côte d'Ivoire, au Burkina, au Bénin, en Djibouti, en Centrafrique, c'est les mêmes réalités. Voilà. Trop d'informels.
Biti Lukondiaï.
Oui, en fait, par rapport à la sécurité des femmes en ligne, je pense qu'il est essentiel aussi de sensibiliser les femmes sur le cadre réglementaire. Nous avons récemment eu un fait divers, un jeune sur Internet qui avait appelé à tuer les femmes. Et il y a une dame qui a fait une plainte Et la justice en est saisie et il a été condamné à des mois de sursis. Donc je pense qu'il y a aussi capacité les femmes pour qu'elles puissent également dénoncer des cas de violence en ligne et des problèmes de pédophilie, parce que réellement il y a un cadre réglementaire qui est là et qui est capable en tout cas de sévir.
Il faut quand même qu'on parle avant la fin de cette émission de l'intelligence artificielle qui est déjà sur la table. On a plusieurs études internationales qui prédisent la disparition de plus de 40% des métiers actuels dans les 10 prochaines années. Ça veut dire que le monde du travail sera profondément bouleversé. Comment l'Afrique va s'approprier une technologie qui s'invente en Chine, qui s'invente aux États-Unis, même s'il y a un centre de recherche en intelligence artificielle au Ghana, à Accra. Mais tout de même, quels vont être les usages sur le continent africain et en particulier pour les femmes dans le business? Qu'est-ce qui va se passer finalement? Comment vous voyez l'avenir, les 10 prochaines années, toutes les 4?
Bon, pour moi, en tout cas, c'est l'intelligence artificielle va presque tout prendre. En tout cas, moi, c'est mon avis. Je suis passionnée de films, de séries comme Black Mirror, que j'adore beaucoup et qui permettent de se projeter dans le futur. Et il y a énormément de métiers qui vont être remplacés par l'intelligence artificielle, par le deep learning.
Y compris en Afrique.
Y compris en Afrique. C'est vrai que ça va prendre un peu plus de temps, mais la vague va nous atteindre également. Dans le secteur bancaire, les caissières, toutes les opérations manuelles qui sont effectuées vont être remplacées. Les dépôts de chèques, les dépôts d'espèces, par exemple. Il y a déjà des banques digitales qui se positionnent. Et il faut dès maintenant que les femmes puissent sentir ce business. Je vois toujours le côté business. Sentir ce business. J'avais organisé un panel où j'avais une Fatim Cissé qui a créé une société spécialisée dans l'IA. S'appelle Dux, et qui se positionne dans l'éducation et l'intelligence artificielle. Donc c'est dès maintenant que les femmes doivent saisir cette opportunité business pour inciter beaucoup plus de jeunes filles à embrasser et des carrières scientifiques, mais même si elles ne font pas de carrière scientifique, à s'intéresser au business de l'intelligence artificielle, parce que la demande en ressources humaines va s'accroître. On parle de data scientists pour analyser la big data générée par les entreprises. On parle également d'experts dans différents domaines de l'intelligence artificielle. J'ai rencontré le robot Pepper. J'aimerais bien rencontrer également Sophia. À un moment donné, ça va être énormément critique et les femmes doivent s'emparer du business de l'intelligence artificielle en Afrique.
Ouais, et on vous sent en ébullition, Edith Brou, sur ce sujet.
Pour moi, le moyen le plus sûr, c'est la formation et le développement des compétences.
Merci à vous toutes. Merci à toute l'équipe de 7 milliards de voisins. Victor Hull à la réalisation, à la préparation de l'émission Delphine de Dianou, Sigrid Azerwald, Cécile Lavolo. Retrouvez-nous lundi, deuxième partie de notre série sur le digital. On sera toujours au Sénégal. Notre émission sera enregistrée à l'université de Thiès. Et on va parler de votre avenir. Que faire après son diplôme? Est-ce qu'il faut chercher du travail ou se lancer dans l'entrepreneuriat? Comment valoriser ses compétences quand on est un jeune diplômé? On va entendre les témoignages, les interrogations des étudiants et puis surtout le conseil des coachs, chefs d'entreprise, spécialistes du numérique ou du développement personnel. Ils ont une vision large du monde du travail et ils savent vous orienter. Alors ne manquez pas l'émission lundi 10h10, temps universel.